Bonsoir, il est 18h30, soyez les bienvenus pour un nouveau face-à-face. Mon invité ce soir est le député Rassemblement National de la 2e circonscription de l'Aude, Frédéric Falcon. Bonsoir Adicias.
Bonsoir Adicias.
Merci d'être avec nous. Alors bon, ça ne vous a pas échappé, la validation par le Conseil constitutionnel et la promulgation de la réforme des retraites par le président sont venues ajouter de l'huile sur le feu. Les contestations se sont par conséquent intensifiées. Quel est votre ressenti sur le climat social actuel ?
Écoutez, sans surprise, le Conseil constitutionnel a adopté dans les grandes lignes la réforme. Effectivement, il y a quelques points qui ont été retoqués,
oui,
comme l'index senior, mais je ne m'attendais pas à autre chose qu'une adoption, malheureusement, de ce texte par le Conseil constitutionnel, hein, qui est composé de membres qui sont aujourd'hui relativement proches du pouvoir. Après, je comprends que ça a créé une grande frustration chez les Français. Les Français sont un petit peu désabusés de ces passages en force successifs. On en est au 10e, 11e, 49-3. Alors que nous avons une majorité qui est minoritaire et des oppositions qui sont fortes. Et malgré tout, le président de la République parvient à faire passer en force tout un tas de mesures qui créent beaucoup de découragement, ce qui risque, selon moi, d'éloigner les Français de la démocratie, parce qu'ils se disent à quoi bon voter si, malheureusement, Emmanuel Macron parvient à passer toutes ces réformes. Donc, c'est un gros sujet d'inquiétude pour moi, qui suis parlementaire et attaché à la démocratie. Et ça suscite de la colère que je comprends, que j'entends. Donc moi, si vous voulez, je n'appelle pas à la violence, je n'appelle à rien du tout de cet endroit-là, mais je comprends la colère des Français, je comprends que les Français l'expriment, je comprends qu'ils manifestent, et je pense que ça va s'amplifier dans les mois qui viennent, parce que on a une crise sociale qui est assez dramatique, avec en fond quand même l'inflation et le pouvoir d'achat qui pose un vrai problème chez nous. Le litre d'essence est à 2 euros.
Oui.
On l'oublie un peu, les gilets jaunes s'étaient mobilisés quand le litre d'essence était à 1,50 €. Il y a l'énergie qui coûte cher, il y a maintenant l'inflation sur les produits alimentaires, les produits de première nécessité. Voilà, ça devient très compliqué pour les Français de vivre et je ne vois pas de fin à la contestation. Je pense qu'elle va continuer à s'installer en s'exprimant de façon plus ou moins différente selon les jours et les semaines. Mais moi, je suis de ceux qui sont inquiets.
D'accord. En ce qui concerne les manifestations intersyndicales qui ont eu lieu depuis plusieurs mois, la CGT a notamment avait évoqué sa défiance à la participation d'élus du Rassemblement national dans leur mobilisation. Mm-hmm. C'était le cas notamment de Philippe Martinez qui disait en février que les élus du Rassemblement national n'étaient pas les bienvenus dans leurs manifestations. Mm-hmm. Et il leur demandait également vigoureusement de ne pas venir. Est-ce que malgré ça, vous soutenez ces mobilisations ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je voudrais rappeler la CGT qui a appelé à voter Emmanuel Macron, qu'un certain nombre de ses militants de base votent pour nous aujourd'hui et que les manifestations étaient quand même assez fournies en électeurs ou militants du Rassemblement national. Donc, nous y étions déjà dans ces manifestations, même si un certain nombre d'élus ne se sont pas déplacés. Bon, j'estime que ça appartient à chacun. Si certains élus de chez nous ont pu s'y rendre, malgré tout, pourquoi pas. Moi, j'ai préféré me concentrer sur le travail parlementaire. Je ne m'interdis rien. Je ne m'interdis pas demain de manifester s'il le faut.
Ah,
voilà.
C'est
après, c'est
ça.
Toujours l'éternel débat. Est-ce que ça fait récupération politique ? Est-ce que ça fait opportuniste ou pas ? Bon, toujours est-il que j'ai été élu sur le refus de la réforme des retraites, hein, y compris par des gens de gauche face aux députés sortants qui étaient Renaissance, qui étaient macronistes. Donc je sais qu'un certain nombre d'électeurs de gauche et de la NUPES ont voté pour moi contre cette réforme des retraites. Moi, j'estime que j'ai fait, en tout cas, tout ce que j'ai pu, tout ce qui était en mon pouvoir pour m'y opposer. Et je regrette un petit peu les positions des états-majors comme celle de M. Martinez. Mais bon, je pense que ça n'a pas beaucoup d'écho. On serait surpris, je pense, du taux d'électeurs de Marine Le Pen chez les adhérents de la CGT.
D'accord. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure que vous ne vous interdirez pas de participer à des mobilisations. Est-ce que, à l'heure qu'il est, vous avez déjà fait partie d'une de ces manifestations ?
Non, pour être honnête avec vous, je n'ai pas participé à une manifestation. Il se trouve que bon, le calendrier fait que je suis souvent à Paris quand elles ont lieu. Hein. Elles ont lieu souvent le jeudi ou en semaine ou le mardi, mercredi, jeudi. Ce sont des jours pendant lesquels je suis à Paris.
D'accord.
Je pense que chacun a sa place, c'est comme on sent, c'est comme on en vit. Mais encore une fois, je ne m'interdis rien. C'est-à-dire que moi, si demain il y a des manifestations qui sont organisées dans certaines, que ce soit autour de l'Assemblée nationale ou à Narbonne, pourquoi pas y participer. Mais bon, c'est vrai que j'ai un petit malaise tout de même à manifester aux côtés de gens qui ont appelé à voter Emmanuel Macron, aux côtés du Parti Socialiste, de la CGT, de la NUPES, qui ont tout appelé à voter Macron et à me faire battre au deuxième tour. Bon,
D'accord.
je trouve qu'il y a une forme d'incohérence, mais je respecte malgré tout la mobilisation de ces organisations syndicales. Et encore une fois, je les appelle à un petit peu de mesure parce que je le redis, beaucoup de nos électeurs sont dans ces manifestations, il faut les respecter.
Il y a aussi, vous avez sûrement vu, l'allocution du président de la République qui a fait part notamment de sa volonté d'apaiser le pays en 100 jours et aussi de relancer son quinquennat. Est-ce que vous pensez franchement qu'un apaisement est possible en 100 jours?
Je trouve que c'est un petit peu facile de vanter l'apaisement, de vouloir l'apaisement quand on a mis le pays dans un tel état de colère. Enfin, il n'y a pas eu de discussion possible, il n'y a pas eu de débat possible. Le débat a été confisqué à l'Assemblée nationale. Nous, on est très frustrés de ne pas avoir pu, débattre de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, l'article 7. Donc, je trouve que c'est un peu tard et il essaie de nous refaire le coup, à mon avis, qu'il avait fait au moment des Gilets jaunes avec le grand débat, avec des effets de communication, en se déplaçant sur le terrain. Moi, j'ai vraiment du mal avec son approche qui est brutale avec les Français, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils se rendent sur le terrain comme s'ils se rendaient sur. Alors qu'on est français sur un ring de boxe, voilà, il y a des rapports de force avec les Français. C'est agressif, c'est tendu. C'est pas du tout ce qu'on attend d'un président de la République qui doit avoir de la hauteur, qui doit être l'arbitre des institutions, qui doit réconcilier les Français. On lui demande pas de se frotter à la colère qu'il a suscité dans le pays dans le cadre de ses déplacements, que ce soit lui ou ses ministres d'ailleurs, parce que vous l'avez vu, ça se passe très très mal quand même pour tout un tas de ministres qui ne peuvent plus se déplacer sans qu'il y ait des mouvements de foule,
On l'a vu avec
des
Papendiaï qui
comités
était
d'accueil.
bloqué, par exemple.
Absolument, hier soir, à la gare de Lyon à Paris, bon, ce sont des images qui sont absolument déplorables. Je pense qu'il a dans l'idée de rebondir. Il se dit qu'il va rebondir comme il a pu rebondir pour les Gilets jaunes. Sauf qu'on n'est plus en 2018 ou
D'accord.
début 2019. Le pays est dans un état qui est beaucoup plus compliqué. Ce qui a pu marcher et fonctionner une fois avec des Français sur la base de la bonne foi ne va pas forcément fonctionner aujourd'hui parce que bon,
D'accord.
c'est du forcing tout le temps. Et moi, c'est vraiment ce dévoiement de la philosophie, de l'esprit de la Ve République qui me pose problème.
D'accord.
Ce passage en force systématique.
Voilà, justement, pour contrer cette réforme, il y a quand même un dernier recours qui semble peut-être se dessiner, celui d'une proposition de loi de la part du groupe Liot, une loi qui viendrait permettre l'abrogation du passage en retraite de 62 à 64 ans, comme le prévoit la réforme des retraites. Cette proposition aurait lieu lors de la niche parlementaire de la Liot le 8 juin prochain. Alors, pour expliquer vite fait à nos auditeurs ce qu'est qu'une niche parlementaire, c'est lorsqu'un groupe de l'Assemblée nationale prend les commandes de l'ordre du jour, et c'est justement à cette occasion que la Liot va proposer son projet de loi. Est-ce que vous pensez que cette loi pourrait réellement passer et mettre à l'arrêt le processus du recul de l'âge de départ à la retraite?
Je l'espère, en tout cas, on n'a pas eu le temps d'en discuter avec notre groupe, parce que vous savez qu'à l'Assemblée, il y a une pause là, pendant les vacances de Pâques, même si
Absolument, oui.
nous travaillons tous. Nous aurons une réunion début du mois de mai. Je pense que sans l'ombre d'un doute, nous allons soutenir cette proposition de loi. Maintenant, ce que je crains, c'est
Vous voterez la
l'obstruction,
loi?
c'est-à-dire que le. Ah oui, je pense que nous
D'accord.
soutiendrons la proposition de loi de nos collègues du groupe Liot. Par contre, il faut expliquer aux auditeurs que les débats commencent à 9h et qu'ils s'arrêtent à minuit. Et si vous avez une obstruction massive qui sera, à mon avis, mise en place par la majorité, c'est-à-dire que si la majorité vous inonde d'amendements, 500 ou 1000 amendements en une journée, c'est impossible de voter un texte dans ces conditions-là. Donc je crains l'obstruction qui nous empêche, nous, groupe d'opposition, de voter cette proposition de loi. Après, on va faire ce qu'on peut pour se battre et faire en sorte que ça soit adopté. Mais le gouvernement et le pouvoir est vraiment déterminé à acter cette réforme des retraites. C'est
D'accord.
assez terrible. Il ne veut rien entendre, il ne veut rien amender. Donc, je ne veux pas donner de faux espoirs à nos auditeurs. Je pense que c'est une excellente initiative, dont en tout cas, Rassemblement National, on va la soutenir. Mais, on a déjà vu comment ça se passait dans ce cadre-là et le pouvoir est capable de déployer dans la journée 500 000 amendements.
En ce qui concerne aussi les débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale contre la réforme, donc c'était il y a assez longtemps, votre parti a été désigné un peu comme le grand vainqueur de la réforme des retraites. Est-ce qu'on peut l'expliquer aussi? Voilà, c'est une analyse qui a été faite par certains journalistes. Est-ce qu'on peut l'expliquer par le fait que le RN, bon voilà, a laissé un peu la France insoumise et le camp présidentiel s'invectiver entre eux pendant que voilà que votre groupe parlementaire semblait être spectateur de ce qui se passait et laissait l'impression par conséquent d'être un peu absent des débats?
C'est-à-dire qu'il y a des stratégies complètement différentes qui ont été mises en place. Nous, nous
avions déposé
environ 300 amendements. 300 amendements pour adoucir cette réforme des retraites. C'est-à-dire que nous avions la conviction que le gouvernement voudrait la passer en force. Et ce que nous proposions, c'était d'adoucir cette réforme des retraites au travers de 300 amendements. Parce que vous pouvez faire des milliers d'amendements en changeant une lettre, une virgule, en faisant ce qu'on appelle de l'obstruction. Ce n'est pas du tout la stratégie de la NUPES, notamment de la France Insoumise, qui a voulu, pardonnez-moi le terme, mais bordéliser l'Assemblée nationale et créer une sorte de chaos pour montrer aux Français qu'ils étaient le groupe d'opposition le plus farouchement opposé à la réforme des retraites. Alors ce sont des tempéraments complètement différents, ce qui fait que de visu, d'extérieur, ça vous donne une opposition frontale entre une NUPES qui était surexcitée et une majorité intransigeante. Et effectivement, nous n'avons pas souhaité aller sur ce terrain-là parce que nous estimions qu'il fallait aller au bout des débats.
D'accord.
Et nous avions un temps qui était relativement limité, c'est-à-dire que les débats sont encadrés d'un point de vue temporel, avec un calendrier. Et cette stratégie de la NUPES nous a empêchés, nous, Assemblée, d'aller au-delà de l'article 2, c'est-à-dire qu'il y avait une vingtaine d'articles. Et avec ce travail d'obstruction, nous n'avons pas pu débattre de l'âge de départ à la retraite, ce qui finalement, je pense, arrangeait également le gouvernement et le groupe Les Républicains, qui n'avaient pas forcément envie de s'exposer ni de voter ces deux amendements. Je pense que 49-3, finalement, a arrangé la majorité et une partie des LR, qui n'ont pas eu du coup à se positionner sur cet article 7.
Bien.
Qui fixe l'âge de départ à la retraite.
Frédéric Falcon,
stratégie différente, mais ce qui
on marque une pause.
Plutôt, je vous en prie.
Voilà, on marque une pause, on se retrouve juste après.
I'll take you back one.
De retour sur le plateau du face-à-face, mon invité, c'est Frédéric Falcon, le député de la deuxième circonscription de l'Aude. On a parlé en première partie d'émission de la réforme des retraites et voilà, du climat social un peu, voilà, du climat social en France. On va parler à présent géopolitique. D'ailleurs, vous siégez à la commission des affaires étrangères de l'Assemblée. Vous avez sûrement suivi ce qui s'est passé au Soudan avec près de 1000 Européens qui ont été évacués, dont 196 Français selon les derniers chiffres du ministère des Affaires étrangères. De plus, l'ambassade française du Soudan a fermé jusqu'à nouvel ordre. Selon l'OMS, il y a plus de 400 morts, près de 3700 blessés. Est-ce que la situation est plus que tendue? Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la suite?
Effectivement, je pense qu'il faut qu'on s'inquiète déjà du sort de nos compatriotes qui sont potentiellement bloqués dans ce pays, et ensuite de la stabilité régionale, parce qu'effectivement, c'est un pays qui est extrêmement instable,
oui.
Qui a une présence française qui est continuellement discutée. Vous avez également des influences extérieures. Hein. Vous savez que la France est concurrencée en Afrique par des puissances telles que la Chine en Afrique. Et on sent un recul de l'influence française en Afrique. C'est malheureux. Et en tout cas, le Rassemblement national souhaiterait créer un nouveau contrat, un nouveau pacte avec l'Afrique, avec des relations qui soient beaucoup plus équilibrées entre les nations et la France, et que l'on puisse bâtir des partenariats. Alors vous me direz, là je vois un petit peu loin, mais c'est vrai qu'en attendant l'urgence, c'est l'aide humanitaire qui doit être apportée aux Soudanais.
D'accord. On va s'intéresser maintenant aux problèmes plus locaux, aux problèmes des vignerons, notamment dans l'Aude, avec la question des pesticides qui engendrent certaines tensions entre les écolos et les vignerons. Vous aviez d'ailleurs apporté votre soutien au syndicat audois des vignerons. Vous aviez aussi dit dans une interview donnée à nos confrères de l'Indépendant que, donc je cite, on assiste à une attaque de la ruralité qui fait du viticulteur le pire pollueur de la terre. Vous trouvez que les viticulteurs sont trop souvent attaqués ?
Alors globalement, effectivement, je trouve que les viticulteurs, les agriculteurs subissent des pressions qui sont de plus en plus fortes de groupes écologistes qui sont parfois intransigeants. Moi, je pense que nos viticulteurs, nos agriculteurs, pardon.
Oui, non, allez-y, continuez.
Je pense que nos viticulteurs et nos agriculteurs sont des gens tout à fait raisonnables qui font ce qu'ils peuvent. Ce ne sont pas des pollueurs en puissance. Ils ont déjà des cahiers des charges qui sont assez exigeants. C'est-à-dire que vous ne faites pas n'importe quoi, notamment pour l'épandage des pesticides.
D'accord.
Et il y a des attaques de plus en plus fortes qui visent un petit peu à criminaliser nos agriculteurs et nos viticulteurs qui sont, je le rappelle, aujourd'hui en grande souffrance.
Oui.
Qui n'arrivent plus à vivre de leur métier. Ça, faut quand même le dire et le redire. Les viticulteurs, dans leur majorité, la viticulture languedocienne est constamment en crise. Mais globalement, l'agriculture française est en crise grave. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous ne pouvez presque plus vivre, ou plus vivre de votre métier. Et ces pressions qui s'accroissent sur les épaules de nos viticulteurs, nos agriculteurs, ne font qu'empirer la situation. Donc, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, encore une fois. Il s'agit de fixer des règles qui sont acceptables. Il s'agit également de préparer l'évolution et de proposer, si c'est possible, à l'avenir des solutions de substitution. Et en attendant, il faut faire avec les pesticides, on ne peut pas faire autrement, sinon notre agriculture va mourir. Donc il y a effectivement cette problématique des épandages,
oui.
Et ça dont vous voulez faire allusion. On a une spécificité au doigt, c'est-à-dire que les épandages sont interdits à moins de 5 mètres d'un cours d'eau, sauf que dans l'Aude, la carte hygiène qui répertorie les cours d'eau est complètement obsolète. Vous avez des cours d'eau qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui sont toujours présents sur ces cartes IGN et qui servent de base pour la verbalisation et pour les règles d'épandage. Donc ça crée des difficultés qui sont extrêmement, extrêmement lourdes pour nos viticulteurs qui ne savent plus vraiment par quel bout commencer, comment s'y prendre. Et je suis venu, j'ai interpellé le gouvernement sur ce sujet-là, notamment pour qu'on révise cette cartographie qui n'est plus du tout à jour. Et également qu'on fasse baisser la pression des mouvements, de certains mouvements écologistes, en tout cas sur nos agriculteurs qui subissent parfois des attaques qui sont rudes, il faut le dire.
D'accord.
Des contrôles musclés également de l'administration.
Un mot aussi sur le gel auquel font face les viticulteurs. Souvenez-vous, en 2021, le gel avait fait de gros dégâts. Le président du syndicat des vignerons de l'Aude parlait justement de carnage. Il y a aussi eu un épisode de gel en 2022, mais là, il n'y avait pas eu de gros dégâts. En tout cas, que comptez-vous faire pour aider les vignerons face à ces épisodes de gel ?
Face à ces épisodes de gel, il faut interpeller le gouvernement pour débloquer des aides d'urgence.
D'accord.
Tout simplement. J'ai pas d'autre solution en l'état. Il faut absolument qu'on puisse leur apporter une aide selon l'intensité qui correspond à l'intensité des dégâts qui sont causés. Voilà,
D'accord.
c'est la façon dont je souhaite les défendre.
D'accord. Bien, on va passer à présent aux questions des auditeurs. Je rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez poser toutes vos questions, absolument toutes vos questions, sur Instagram et Facebook. On va commencer avec une question de Anne qui nous demande: que pensez-vous du texte sur l'immigration proposé par le chef de l'État? Alors, pour rappeler vite fait que voilà, ce texte vise à accélérer les OQTF, les obligations de quitter le territoire, et la régularisation des travailleurs étrangers. Quel est votre avis sur ce texte?
Eh ben, j'aurai un avis quand j'aurai vu le texte. Parce que
Ah, vous
pour le
l'avez pas
moment,
vu.
si vous voulez, non, le texte n'est pas encore finalisé. Le
D'accord.
gouvernement teste l'opinion
Oui.
en lançant dans la presse tout un tas de positions. Donc c'est extrêmement difficile aujourd'hui de se positionner sur ce texte. Il était question au départ de le saucissonner, c'est-à-dire que la majorité minoritaire n'a pas de majorité pour faire adopter le texte dans sa globalité, qui pourrait être, sous certains aspects, un coup à droite, un coup à gauche. Donc il était question de le saucissonner, de le diviser en quatre textes pour le voter plus simplement. Donc aujourd'hui, c'est compliqué de donner une position claire sur l'ensemble de ce texte. Après, tout ce qui pourra freiner l'immigration clandestine notamment sera soutenu par le Rassemblement national, mais on se fait assez peu d'illusions sur les ambitions de ce texte, qui propose également, dans un autre volet, d'accélérer la naturalisation d'un certain nombre de et également l'immigration d'un certain nombre pour un certain nombre de secteurs qui sont en souffrance en termes de main-d'œuvre. Donc voilà, c'est assez nébuleux pour le moment. On ne sait pas si le texte arrivera à l'Assemblée d'ici l'été ou s'il arrivera à la rentrée. Voilà, je donnerai une position claire le moment venu, mais aujourd'hui, c'est quasiment mission impossible.
Si le RN arrive au pouvoir en 2027, garderez-vous la réforme des retraites, nous demande Wilfried.
Non, nous reviendrons dessus.
D'accord.
Voilà, nous reviendrons dessus, c'est acté. Nous avons un projet, hein, nous appliquerons notre projet qui est très simple, je vais pas être très long. C'est départ à la retraite à 60 ans pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt, entre 17 et 20 ans, et départ progressif à 62 ans pour les personnes qui ont commencé à travailler entre 20 et 24 ans.
D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup, monsieur le député, d'être venu nous voir sur le plateau du face-à-face.
Je vous en prie.
Merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre et d'être toujours aussi fidèles